De retour à l'émission Au gré du temps, nous recevons aujourd'hui le docteur Régent Thomas, qui se consacre essentiellement au dépistage des maladies transmises sexuellement et aussi auprès des victimes. On peut parler de victimes quand il est question de sida, non?
Les gens n'aiment pas tellement ça.
Non?
Non, ils n'aiment pas être victimisés. Donc, moi, le terme que je préfère utiliser, c'est « personnes vivant avec le VIH-sida ». Parce que maintenant, il y a sida, VIH à cause des traitements. On peut presque reculer de sida à être porteur. C'est hallucinant comment on a avancé scientifiquement. Alors, c'est un terme que les malades préfèrent.
Vous dites que c'est hallucinant. Est-ce que c'est aussi hallucinant? Parce que vous le disiez avant la pause, vous considérez qu'on n'a pas mis suffisamment de moyens pour sensibiliser, malgré le fait qu'il y a eu quand même des campagnes, mais peut-être pas de façon aussi importante qu'il faudrait qu'elle...
Bien, qu'on regarde toute l'énergie qui est mise dans la grippe H1N1, je reviens là-dessus, qu'on regarde l'énergie qui est mise dans la lutte au tabagisme, c'est continuel, ces luttes-là, c'est tous les jours. Alors, toute campagne de prévention, c'est un débat constant. Et en plus, nos groupes changent. Nos groupes qui ont 20-25 ans aujourd'hui avaient 10 ans à l'époque de la trithérapie. Il faut actualiser notre prévention.
Mais ce n'est plus uniquement une maladie masculine, parce que le sida touche les hommes et les femmes.
Oui, c'est une maladie qui est majoritairement masculine en Amérique du Nord. Mais si on regarde à la clientèle, la clinique chez nous, 70% sont des hommes homosexuels et 30% hétérosexuels avec d'autres facteurs de risque. Donc, il y a une dominance homosexuelle, mais pas seulement homosexuelle. Et souvent, je vais vous donner cet exemple-là, on pense à sida depuis le début. Je suis convaincu que nos auditeurs pensent à homosexualité et toxicomanie. Ma plus jeune patiente a 18 ans, elle est née avec le VIH. Ma plus vieille patiente a 84 ans. Elle a le VIH, elle l'a appris 10 ans après la mort de son mari. Alors, on vient de briser deux tabous, là, et c'est ça la réalité de tous les jours. À travers ça, où il y a des homosexuels, il y a des toxicomanes, il y a des gens qui viennent de pays endémiques, il y a toutes sortes de monde.
Et aux deux pôles, parce que vous parlez du plus jeune et de la plus vieille,
exact.
J'imagine que l'approche est aussi différente.
Totalement. La plus jeune, qui a 18 ans, a contracté le VIH de sa mère, donc a vécu une adolescence comme tous les adolescents, et encore pire, elle m'a raconté un jour des choses, comment à l'école, quand on parlait du sida, parce qu'elle vivait ça de façon anonyme, comment elle sentait les préjugés des gens.
Mm-hmm.
Et ma plus vieille patiente, c'est le contraire, c'est on parle presque jamais du sida. On en a parlé la première journée. Elle vient me voir à l'actuelle. Elle sait que c'est une clinique spéciale au centre-ville de Montréal. Puis elle me dit, est-ce que je vais bien, docteur? Puis, est-ce que je vais vivre longtemps? Ben là, je dis, vous êtes rendu quand même à 84 ans, c'est pas mal. Elle va bien, elle conduit sa voiture. Alors, vous voyez, une espèce, les personnes plus âgées, une espèce de pudeur de parler de ces choses-là. Et qui reste une maladie tellement stigmatisante. Elle est tout seule, là. Elle est veuve, elle n'a pas d'enfant. Elle est tout seule, un peu à l'extérieur de Montréal, à vivre ça. Et une fois par mois, elle vient à la clinique voir son médecin, qui est moi en l'occurrence, et le personnel, les pharmaciens. C'est le seul moment où elle aborde ça.
Oui.
C'est très touchant. Hein. J'en parle, puis ça me touche encore.
Comment vous réussissez, justement, personnellement à...
C'est eux.
C'est eux?
Ben oui, c'est eux qui nous donnent la force, parce que moi, c'est rien à côté d'eux. Moi, je vois des destins tous les jours. Chacun de mes patients, de mes patientes est un livre, est un film, est un drame humain.
Mais vous l'avez dit, c'est une maladie qui stigmatise.
À la différence du cancer.
Exact. Est-ce que ce n'est pas d'autant plus difficile au plan de la charge émotive d'avoir à rencontrer des gens qui seront probablement victimes, et là on peut parler de victimes, des préjugés, qui sont parfois même rejetés par leur entourage.
Souvent, particulièrement dans le milieu du travail. C'est là où c'est le plus difficile. On vit une espèce de période, vous l'avez dit au début de l'émission, on ne parle presque plus du sida, une espèce de négation, alors que les gens ne meurent plus de sida, il y a de nouvelles infections. Donc, c'est quoi la réalité? C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent avec le sida dans notre environnement, avec le VIH, mais on n'en parle pas. Alors, il peut avoir une infirmière séropositive, votre coiffeuse peut être séropositive, la gardienne... tout est possible, mais on n'en parle pas. Et les gens ont tellement peur d'en parler parce qu'ils ont tellement peur de perdre leur travail. Même dans des milieux syndicalisés, là, il y a beaucoup, beaucoup de préjugés encore.
Comment faites-vous pour faire la part des choses entre votre vie personnelle et le fait d'être impliqué à ce point auprès des personnes atteintes de VIH?
Le fait d'avoir participé, d'être là depuis le début et qu'aujourd'hui, il y a des traitements, fait que j'ai l'impression de ne pas avoir, je dirais, donné ma carrière pour rien. J'ai l'impression d'avoir participé à ça. Alors, c'est quelque chose de valorisant.
Est-ce que la musique est importante à cet
oui,
aspect?
Oui, la musique est très importante.
Musique classique?
Toutes sortes de musiques. J'aime beaucoup aussi la musique francophone, la musique classique, toutes sortes de musiques. Ça, c'est... Et je trouve ça fantastique aujourd'hui. Moi, je vais acheter tout sur iTunes. Là, je trouve, oh, j'entends quelque chose, j'y vais un petit peu compulsif. Mais c'est la détente, la musique, les voyages. J'ai la chance de voyager beaucoup.
Alors, on va vous faire découvrir une belle pièce ancienne. Elle est d'Antonio Vivaldi. On connaît bien sûr les quatre saisons de Vivaldi. Cette pièce est un peu moins connue. C'est le psaume Laudate Pueri Dominum. Et c'est interprété par Karina Gauvin, qui l'interprète avec les chambristes de Ville-Marie. Ça apaise, ça, Dr. Thomas, cette musique, n'est-ce pas?
Oui, c'est important d'avoir des moments pour soi, effectivement.
Est-ce que vous en avez suffisamment?
J'en ai pas beaucoup, mais là, je me suis trouvé un refuge. Je me suis acheté une maison. Moi, je suis originaire du Nouveau-Brunswick.
Dans oui, on le disait, ouais. Acadie.
Donc, je me suis acheté une maison il y a 4 ans. Et je suis sur le bord de la mer et j'essaie d'y aller. J'y vais pas assez souvent, mais j'essaie d'y aller. Et c'est vraiment là où j'ai le plus de paix.
Est-ce que, parce que votre métier est vraiment exigeant, on le sait, particulièrement à cause de ce type de maladie, avec tous les qualificatifs dont vous avez parlé précédemment, est-ce que vous avez l'impression parfois de travailler dans... un domaine où ça n'évolue pas suffisamment rapidement?
Non, au contraire. J'ai terminé ma médecine en 79. Le sida n'existait pas. En 81, le sida est apparu. Puis ça fait 25 ans cette année que je travaille à la lutte au sida. On a fondé la clinique en 84, donc 25 ans cette année. Et aujourd'hui, on a des traitements qui peuvent sauver notre monde. Ça, c'est extraordinaire. Et des traitements, il y a des trithérapies à un comprimé par jour. Alors, ça, c'est tellement agréable. On est passé des soins palliatifs à une maladie chronique, parce que moi, j'en ai fait des soins palliatifs, puis des visites, puis aller dans des salons funéraires. Là, pendant 10 ans, on a fait ça assez fréquemment. Alors, aujourd'hui, nos gens vivent, nos malades vivent.
Est-ce que leur qualité de vie est quand même intéressante?
La majorité de mes malades travaillent et vont relativement bien. Ils ont des complications, mais c'est rien par rapport à ce que c'était avant. Le contrepoids de ça, ben, c'est la difficulté de la prévention. Mais en même temps, c'est pas mon rôle, je suis pas ministre, je suis pas sous-ministre à la santé publique. Donc, j'essaie d'accepter mes limites aussi. Moi, je suis pas responsable de la prévention, puis j'ai pas de budget pour en faire, et malgré tout, on en fait à la clinique. On est parmi les seuls, à peu près, qui en font. Mais, qu'est-ce que vous voulez, on travaille avec ce qu'on a, mais ça, c'est la difficulté, peut-être, de voir aujourd'hui encore des jeunes qui, à 19 ans, il y a récemment, j'ai annoncé un jeune qui était... avec sa mère, que j'ai annoncé qu'elle était séropositive. Vous savez, elle venait d'accepter l'homosexualité de son fils, et là, il fallait qu'elle accepte que son fils à 19 ans soit séropositif. Vous pouvez imaginer la mère qui pleure, hein, dans notre bureau, qui ne dit pas un mot. Mais c'est la vie.
Serge Lama, la chanson « Je suis malade » quand vous entendez cette chanson.
Bien, c'est une chanson que j'écoute depuis longtemps, hein, dans le fond, avant que je sois médecin. C'était une chanson préférée de ma mère. Ça m'aurait beaucoup moins ma mère.
Alors, on l'écoute.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau, je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, de tous mes mots. Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue, si ça continue je crèverai seul avec moi près de ma radio comme un gosse idiot écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade. Serré de barricade, t'entends, je suis malade.
Docteur Thomas, vous disiez tantôt que vous n'aviez pas les budgets pour solutionner tous les maux de ce monde. Non. Quand vous avez fait de l'action politique, c'est un peu la raison pour laquelle vous y alliez, pour investir davantage dans des programmes peut-être de sensibilisation, de prévention?
Oui, il faut se rappeler l'époque que j'ai été candidat en 94. Donc, c'est l'époque où le sida est la principale cause de mortalité chez les hommes au centre-ville de Montréal de 25 à 44 ans. On a oublié ça, hein? C'est il y a 12 ans seulement, 15 ans. Donc, 94, la trithérapie n'existe pas. Et je me dis, je me pose la question, et un peu déprimé probablement, là, c'était vraiment lourd là, à la clinique. Là. La salle d'attente est remplie de gens qu'on sait qu'ils vont mourir. Ils ont 30 ans, ils ont l'air de 75-80 ans. Ils sont rejetés par le système de santé. Ils sont rejetés par leur famille souvent. Et je me dis, qu'est-ce que je fais là dans mon bureau à voir les malades un après l'autre, et j'ai rien à leur offrir. Et là, je me suis dit, peut-être qu'en allant en politique, je travaillerais sur un autre niveau. C'était vraiment comme ça que je le voyais.
Donc, profondément déçu à la défaite?
Pas tant que ça. C'est drôle, parce que Jean Campeau qui m'a appelé, là, Jean Campeau qui est très, très, je pense, croyant, qui m'appelle, et il n'y a pas beaucoup de gens qui t'appellent quand tu as une défaite, mais tu te rappelles de ceux qui t'ont appelé. Et Jean Campeau, qui était un homme que j'ai côtoyé un peu, que je ne connaissais pas du tout, moi.
Qui était à l'époque ministre des Finances.
Il était ministre des Finances. C'était un homme que j'aimais beaucoup. Et il m'appelle, il dit, tu sais, le bon Dieu a décidé que tu étais plus important à ta clinique. Et j'avais trouvé ça vraiment mignon. Donc, moi, j'accepte. J'ai pas vécu ça mal, la défaite, du tout. J'ai vécu une campagne extraordinaire dans un comté que je connaissais pas beaucoup, mais qui j'avais choisi un peu ce comté. Là. Il n'y avait pas beaucoup de comtés. Et je savais que c'est un comté qui était à peu près imprenable, mais quand tu ne connais pas la politique, tu ne fais pas la différence. Et les gens de Saint-Henri, de tout ce coin-là, m'ont donné, de Sainte-Anne, m'ont accueilli. Et quand j'ai perdu mes élections, mais le soir des élections, et ça a été très long, Radio-Canada m'annonçait gagnant, TVA m'annonçait gagnant. Et moi, j'étais au bout du téléphone, d'un cellulaire, dans une boîte une cabine téléphonée, et on me disait, non, tu vas pas te présenter tout de suite à la soirée qu'ils ont fait pour toi, parce que tu vas perdre. Les dernières boîtes vont entrer, et probablement que tu vas perdre parce que c'était trop serré. Et là, je suis rentré dans cette salle-là, mais pas triste. Mais là, quand j'ai vu tous les gens qui sont venus me voir et qui pleuraient, alors c'est ça aussi l'action politique, hein? Des gens qui s'investissent.
Et vous en avez eu beaucoup autour de vous.
J'en ai eu beaucoup, j'ai eu des appuis, là, c'était incroyable. Et j'ai perdu, c'était très, très serré, hein? J'ai perdu par 500 voix à peu près. Dans un comté difficile et vraiment libéral.
Et pourtant, André Boisclair, dit-on, est revenu à la charge quelques années plus tard en souhaitant que vous reveniez à vous représenter pour les élections dans le cadre de l'élection dont il était chef à ce moment-là du Parti québécois.
Oui, on en a parlé, même avant, alors qu'il n'était pas chef aussi quand c'était quelqu'un d'autre. Après, quand il était chef... Mais moi, je trouvais ça trop difficile. André étant un grand ami, André étant chef, et moi, je trouvais ça trop difficile de faire une campagne à ce moment-là. Et j'étais donc content de ne pas y être.
Est-ce que vous avez mis une croix définitive sur l'action politique?
Je dirais qu'en ce moment ici, pas une croix définitive, parce que c'est de quoi que je suis de beaucoup l'actualité locale et internationale. Mais en ce moment ici, je n'ai pas tellement d'intérêt. Ça ne m'excite pas beaucoup. Et je suis très heureux dans ce que je fais à ma clinique.
Mais si vous aviez un jour été ministre de la Santé, quelle aurait été votre principale action, celle que vous auriez voulu mettre en place?
Ben, c'est tellement difficile. Et ça, le problème avec ce qu'on voit que les politiciens font, on voit que c'est très difficile d'avoir une vision, de développer... Je pense au ministre de la Santé, mais dans le fond, tous les ministres et les premiers ministres, on est pris dans le quotidien, la crise du cancer, la crise de la grippe. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas le temps de s'asseoir puis d'avoir une vision à plus long terme. Après, on a les journalistes qui nous courent après, on a l'opposition qui nous court après. C'est une bataille que moi, je trouve pas tellement agréable. Ce qu'on aimerait, c'est d'avoir une vision, de voir le lien entre la pauvreté et la santé, entre l'éducation et la santé, qui est vraiment plus de ces liens-là. Donc, quelle aurait été certainement peut-être de prévention, peut-être que j'aurais aimé axer en général, je ne parle pas juste évidemment pour les MTS-SIDA, d'essayer de changer notre vision. Mais ça, c'est difficile parce qu'il y a, aussi...
Être plus préventif que curatif.
Oui, mais en même temps, il y a des... Tu sais, on veut avoir accès à tous les derniers traitements, on veut tous les scans, on veut tout.
Les pressions sont énormes.
Les pressions sont énormes, puis pendant ce temps-là, ben, les budgets ne sont pas illimités.
Alors, il y a de quoi pleurer, quoi. On termine cette émission avec une chanson qui n'est pas très connue, mais qui, dans le fond, va bien s'enchaîner avec ce que nous venons de dire. C'est une chanson de Petula Clark et qui a pour titre « Une rose qui pleure ». En l'écoutant, je me disais, ça terminerait probablement bien cette émission quand on pense à toutes ces personnes qui sont effectivement atteintes.
Et c'était la chanteuse préférée de ma mère.
Encore une fois.
Je vais jeter pour toi une rose dans l'eau, et ma rose s'en va comme un petit bateau. J'attends toujours. Je vais jeter pour toi une rose dans l'eau, et ma rose s'en va comme un petit bateau.
Alors, pour maman, Thomas, c'est ça?
C'était oui. Petit. J'en parle parce qu'elle a été assez importante dans ma vie, dans oui. Tout le choix de mes valeurs. Elle est décédée, ça fait 9 ans cette année. Mais effectivement, ça... Ma mère nous disait... Moi, je viens d'un milieu pas riche, loin d'être riche, pas pauvre, un père charpentier puis une mère à la maison. Et ma mère, en Acadie, et ma mère nous disait, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'est pas intelligent. Alors, j'ai été élevé là-dedans, dire, continuons. Puis elle disait, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit d'accès à des soins de santé. Vraiment, la question de la dignité des pauvres, c'est ma mère qui m'a inculqué ça.
Est-ce que c'est la principale valeur qui vous anime et qui a animé toute votre action?
Je pense que oui. Et quand j'ai fondé Médecins du Monde, je me suis dit, ça vient tellement de mes valeurs familiales.
Mais on espère, Dr Thomas, que vous allez encore continuer pendant de nombreuses années à
on vieillit.
Non, mais à vivre ces valeurs parce que vous êtes un modèle en votre genre et vous avez effectivement offert un soutien extraordinaire à de nombreuses personnes et vous le continuez de le faire. Votre implication sociale, elle est aussi formidable. Pour tout cela, au nom de tous ceux qui nous écoutent, on vous dit un grand merci.
Merci, merci à vous.
Et merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Ce fut une heure fort agréable.
Merci.
Alors, nous étions donc en compagnie du Dr Régent Thomas, ici Armand Dubois, qui vous souhaite de passer une agréable semaine. Cette émission qui a été réalisée sous la supervision de Nikolaï Djouchkine. À la prochaine, au plaisir.